Midi et demi, 13h, c'est donc l'heure du journal de la mi-journée avec vous Fabienne Lemoyle. Bonjour Fabienne.
Bonjour Marlène, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée. À la une, toujours aucune explication après l'attaque au couteau qui a coûté la vie à un jeune de 19 ans à Villeurbanne hier après-midi. L'agresseur, un Afghan de 33 ans, est toujours en garde à vue et pour l'instant, le parquet national antiterroriste n'a pas été saisi. Nous ferons le point sur l'enquête et vous entendrez un témoin de la scène. Pas question de traîner pour privatiser la Française des Jeux. Déclaration sur Europe 1 de Bruno Le Maire ce matin. Ce sera fait d'ici la fin novembre, nous dira le chef du service économie d'Europe 1, Emmanuel Duteil. Dans le journal de la mi-journée, la carte des accidents mortels sur les routes qui interroge sur le retour aux 90 km/h. Plus de la moitié des services d'urgence en grève en France. Reportage édifiant à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre en région parisienne. La rentrée des classes, bien sûr, J-1 avec les conseils d'une psychothérapeute pour ne pas inquiéter vos enfants. Et nous parlerons aussi du gros dossier de la réforme du bac avec mon invité Philippe Vincent. Il est secrétaire général du syndicat national des personnels de l'éducation nationale et des chefs d'établissement. Le journal des sports est peut-être la fin du feuilleton Neymar qui devrait rester au PSG. En tout cas, c'est ce qu'il aurait dit à ses proches, faute d'accord avec le Barça. Enfin, la météo, chute spectaculaire des températures, moins 10 degrés en moins de 24 heures.
Europe 1.
C'est toujours l'émotion ce matin à Villeurbanne après l'attaque au couteau qui a coûté la vie à un jeune de 19 ans. 8 personnes ont été blessées, dont 3 dans un état grave hier après-midi. Émotion et incompréhension, d'autant que, et on y reviendra dans un instant, les motivations de l'agresseur restent encore très floues. Je vous propose d'écouter un habitant du quartier qui assistait à la scène hier. Boumediene a même échangé quelques mots avec la victime.
J'étais en face de l'arrêt de 83, il y avait beaucoup de monde. J'ai attendu le bus. D'un coup, j'ai parlé déjà avec le mec là qui est mort 5 minutes avant. Je l'ai demandé, je lui ai dit, ouais, il y a beaucoup de monde en ce moment qui partent à Miribel et tout. Il m'a dit, ouais, on a notre soirée, on dort là-bas et tout. Ok. D'un coup, je vois les gens qui bougent partout, ils partent à gauche, à droite. Je me suis dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Il y a une bombe, il y a quelque chose. Je me suis barré un peu en arrière. D'un coup, je vois le mec, j'ai parlé avec lui juste 5 minutes. Il était par terre. Ça m'a fait vraiment de la peine pour lui. Franchement, voilà, qu'il allait passer sa soirée tranquille. Et... moi, franchement, j'ai pas pensé qu'il allait mourir. Après, voilà, c'est comme ça.
Boumediene, un témoin de cette terrible scène hier après-midi, attaque au couteau à Villeurbanne. C'est vous, Maxime Choche, qui avez recueilli ce témoignage. On va faire le point maintenant sur l'enquête. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur le profil de l'agresseur qui, semble-t-il, n'est pas très bavard en garde à vue?
L'identité de l'auteur de l'attaque est connue depuis hier par les enquêteurs de la police judiciaire de Lyon. Il s'agit d'un ressortissant afghan âgé de 33 ans, demandeur d'asile. Un suspect inconnu des services de renseignement qui, lors de sa garde à vue depuis 16h45 hier, a d'abord tenté de brouiller les pistes face aux enquêteurs avant de finalement livrer sa véritable identité. Une information qui a pu être vérifiée grâce à la photo de son passeport. Il a montré peu de coopération durant les premières heures de cette garde à vue qui pourrait être renouvelée pour 24 heures supplémentaires. Le meurtrier était équipé de 2 armes. Hier, un couteau de cuisine et une sorte de grande fourchette à barbecue dont il a fait usage sur 9 personnes avant d'être désarmé par des passants. Le bilan provisoire reste pour l'heure inchangé. Un mort, un jeune homme de 19 ans qui a succombé à ses blessures peu de temps après l'attaque et 8 blessés dont 3 se trouvent toujours entre la vie et la mort. Les policiers tentent à présent de reconstituer l'emploi du temps du suspect durant les heures qui ont précédé son geste à cette sortie de métro à Villeurbanne. Essayer de comprendre ce qui a pu déclencher un tel passage à l'acte. La piste terroriste est pour le moment écartée. L'enquête est d'ailleurs entre les mains du parquet de Lyon et non du parquet national antiterroriste.
Et on en saura peut-être plus cet après-midi puisque le procureur de la République de Lyon doit tenir une conférence de presse à 15h.
Europe 1 midi 34, Fabienne Lemoyle.
La privatisation de la Française des Jeux est en marche. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, l'a confirmé ce matin sur Europe 1. Pas question de traîner, Emmanuel Duteil.
Oui, et ça va aller très très vite. Bercy veut introduire en bourse la Française des Jeux avant fin novembre, c'est donc quasiment demain. L'État va rester au capital, il va conserver 20% de la Française des Jeux. Et le gouvernement espère surtout que les Français et les salariés vont acheter en masse des actions, comme l'a confié ce matin au grand rendez-vous d'Europe 1 le ministre de l'économie, Bruno Le Maire.
Les salariés, comme les Français, pourront participer à cette privatisation. Les salariés avec des conditions peut-être plus avantageuses, c'est normal, par exemple avec une possibilité de décote sur le prix de l'action. Et les Français pourront aussi participer à cette privatisation. Je souhaite qu'ils y participent le plus largement possible, avec un certain nombre d'avantages, comme par exemple des actions gratuites en fonction de la durée de détention du titre.
Pour tenter de rassurer, le gouvernement va aussi mettre sur pied d'ici quelques semaines une autorité indépendante de régulation des jeux, autorité qui sera chargée de lutter contre les addictions aux jeux, notamment des plus jeunes.
Merci beaucoup Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1, Bruno Le Maire, qui est par ailleurs revenu sur les propos du chef de l'État sur la réforme des retraites. Toujours lors de ce grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos, il a indiqué que quand Emmanuel Macron a dit préférer un système basé sur la durée de cotisation, c'était juste une indication, pas une clarification. Vous en avez peut-être pas encore vu la traduction sur les routes secondaires cet été, mais depuis le mois de mai, Édouard Philippe a ouvert la porte au retour à 90 km/h, une perspective qui inquiète la Ligue contre la violence routière. La Ligue qui a dressé la carte des accidents mortels pour bien montrer qu'il faut rester aux 80 km/h. Des cartes publiées en exclusivité par Europe 1 et le journal du dimanche ce matin et qui donnent à réfléchir. Théo Manval.
Sur ces nouvelles cartes de la Ligue contre la violence routière, une nuée de points de couleur. La localisation des accidents mortels ou qui ont fait des blessés graves sur 5 années depuis 2013. Comme l'an passé, elle dresse un constat implacable. La moitié des décès intervient sur à peine 15% du réseau routier et pas sur les routes auxquelles on pense spontanément, explique Chantal Perrichon, la présidente de l'association.
Contrairement à ce que les conducteurs imaginent, ce ne sont pas sur les petites routes ou en montagne que le risque est maximal. Le risque est maximal sur les belles routes, celles qui n'ont pas de séparateur médian, où circule un maximum de véhicules. La majorité des tués se retrouvent sur une dizaine de voies à peu près pour chaque département.
Sauf que ce sont ces axes que de nombreux élus veulent faire repasser à 90 km/h. Le Premier ministre Édouard Philippe y a ouvert la voie en mai dernier. Un amendement en ce sens au projet de loi sur la mobilité revient à l'Assemblée nationale demain. La Ligue contre la violence routière va donc envoyer cette semaine, et c'est une autre annonce exclusive, 4000 courriers à tous les préfets, présidents de département et parlementaires pour les interpeller. Et leur rappeler le prix du sang, dit l'association, d'un tel retour en arrière. L'an passé, le passage à 80 km/h a permis de sauver 206 vies sur les routes, selon le ministère de l'Intérieur.
Théo Manval et ses cartes dressées par la Ligue contre la violence routière, vous pouvez les retrouver en intégralité dans le journal du dimanche. L'attention ne semble pas retomber dans les services d'urgence. 240 services en grève à ce jour, selon le porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France. C'est ce qu'il disait ce matin sur Europe 1. Il notait que c'était près de la moitié des services en France qui étaient touchés. Désormais, le mouvement a débuté en mars et à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre en région parisienne, ce sont des soignants exténués que Johanna Chabas a rencontrés.
De culpabiliser parce que j'ai un patient de 105 ans qui reste sur un brancard pendant 3 jours, oui, bah, je me sens mal.
Anne-Claire est infirmière depuis 8 ans. Aujourd'hui, elle ne reconnaît plus son métier.
C'est un travail avant tout humain. On doit accompagner quelqu'un dans la difficulté, dans la douleur. Et là, on est obligé de tout faire extrêmement rapidement. Sans cet accompagnement, bah, ce travail prend un non-sens.
Ici, le temps d'attente peut monter jusqu'à 8 heures. Les grévistes ont mis en place un carnet de doléances à l'entrée du service. Dedans, des encouragements, car beaucoup de patients comme Momo soutiennent le mouvement.
Je pense que leur conscience professionnelle ne leur permet pas de laisser les gens malades et de se dire, voilà, je suis en grève, je ne te soigne pas, je ne te prends pas, je ne te fais pas de piqûre. Je leur dis merci quand même.
3 mois que ce service est en grève, 3 mois qu'il est réduit au minimum. Le soir, seuls 8 infirmiers sont disponibles pour parfois 200 patients. Alors pour cette aide-soignante, le rythme est effréné.
On est devenus des robots. Quand un patient t'appelle, t'as pas le temps, quoi. Je dis oui, on arrive. La phrase c'est on arrive, mais on sait très bien qu'on est parti sur autre chose parce que il manque de personnel, donc il faut qu'on voit tout le monde. On n'a plus le temps pour le patient.
Beaucoup sont donc démoralisés. Dans ce service, les départs sont nombreux. 7 infirmiers et 12 aides-soignants prévoient de quitter les urgences avant la fin de l'année.
Johanna Chabas au Kremlin-Bicêtre pour Europe 1. À suivre, le pardon de l'Allemagne à la Pologne 80 ans après le début de la Seconde Guerre mondiale. Moment très fort ce matin avec les mots prononcés par le président allemand. On y revient dans un instant.
Il est 12h40, la suite du journal sur Europe 1, Fabienne Lemoyle.
Le pardon de l'Allemagne à la Pologne 80 ans après le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, c'était ce matin les mots très forts du président allemand, des mots prononcés, Lenko, dans un endroit bien particulier.
Oui, pour la première fois ce matin, en 80 ans, l'Allemagne avait tenu à être à Wieluń, au centre de la Pologne. C'est une petite ville qui a été attaquée sans aucun avertissement préalable par les bombardiers nazis à 4h50 le matin du 1er septembre 1939. C'est donc là qu'a commencé la Seconde Guerre mondiale, avant même l'invasion de la ville de Danzig, comme on l'apprend dans les livres d'histoire. Un enfer s'abat alors sur Wieluń et ses habitants, a dit le président allemand Steinmeier ce matin dans son discours, prononcé dans les lueurs de l'aube à l'heure exacte de l'attaque, devant une foule venu avec des bougies, il reconnaît la volonté de destruction totale qui animait l'armée allemande et il prononce ces mots historiques.
Je m'incline devant les victimes polonaises de la tyrannie allemande et je demande pardon.
Alors avant ça, bien sûr, il y avait eu le chancelier Willy Brandt à genoux devant le mémorial du ghetto de Varsovie, mais cette fois, c'est un pardon pour les 6 millions de victimes polonaises dans leur ensemble, pas seulement les juifs. Derrière les paroles et les symboles, il y a aussi un intérêt politique, alors que la tension monte entre Varsovie et Berlin sur la question d'éventuelles réparations de guerre. Le gouvernement polonais estime que son peuple aurait droit à des indemnisations. Ce matin, le président Steinmeier a fermé la discussion d'une manière très habile en reconnaissant l'horreur des actes allemands et les drames des Polonais que jamais rien ne saurait dédommager.
Hélène Kohl, je rappelle que vous êtes notre correspondante à Berlin. Hélène, on vous retrouvera d'ailleurs ce soir à 18h pour suivre cette fois les résultats de deux élections régionales particulièrement suivies en Allemagne qui pourraient témoigner d'une nouvelle percée de l'AfD, le parti d'extrême droite. Ça y est, les vacances sont bel et bien finies. C'est la rentrée des classes pour 12 millions d'élèves à partir de demain. Et forcément, Marlène, vous avez sûrement envie de rassurer le petit dernier qui a fait sa première rentrée maternelle. Mais attention aux mots que vous allez prononcer ce soir à l'heure du repas. Vous pourriez même provoquer l'effet inverse. Alors écoutez bien attentivement les conseils de la psychothérapeute Audrey Acoun.
Déjà, les premiers mots pour un enfant qui est inquiet, c'est surtout de ne pas lui dire « ne t'inquiète pas, ça va bien se passer » puisque le cerveau ne connaît pas la négation. Donc, ce qu'il entend, lui, c'est « inquiète-toi ». Ce n'est pas tellement dans les mots, mais plus de dire « je vais penser à toi ». Pour les plus petits, on peut carrément faire un petit objet transitionnel, même ceux de primaire. Dire je dessine un petit cœur sur ma main et je te dessine le même petit cœur ou une fleur sur ta main. Et comme ça, quand tu as un coup de blues dans la journée, tu le regardes et tu sais que moi aussi, j'ai la même chose et que je pense à toi, même si on doit se séparer, même si ça peut être angoissant, on est là, on est derrière eux, mais surtout pas leur dire ne t'inquiète pas.
Ben voilà, ne pas leur dire ne t'inquiète pas, ça va les inquiéter, c'est ce que dit la psychothérapeute Audrey Acoun à Ève Roger. Et vous pouvez retrouver d'ailleurs les conseils de cette psychothérapeute dans son livre « L'éducation positive ». Nous, on va aussi essayer de dédramatiser juste après le journal des sports un autre sujet qui inquiète beaucoup les élèves demain matin, c'est la réforme du bac. On en parlera avec mon invité Philippe Vincent. Il est secrétaire général du syndicat national des personnels de l'éducation nationale et des chefs d'établissement et lui fait sa 27e rentrée des classes, figurez-vous, à Aix-en-Provence.
Le journal des sports.
Avec Marie Guida. Bonjour Marie.
Bonjour.
Alors ça y est, on en a enfin fini avec le feuilleton Neymar. Ça semble clap de fin puisqu'il devrait rester au PSG.
Eh oui, la star l'aurait annoncé à ses proches et à ses coéquipiers qu'il renoncerait à retourner à Barcelone. Les négociations avec le Barça n'avançaient pas. Il s'est donc fait une raison. Il reste à Paris. Bon, maintenant, le plus dur reste à venir pour notre journaliste brésilienne Isabella Pagliari. Il va devoir reconquérir le public parisien.
Il va rester au Paris Saint-Germain. Il a demandé d'arrêter les négociations parce que déjà Barcelone n'avait pas les moyens exigés par PSG. Il a tout fait pour sortir cette saison. C'était impossible parce qu'il n'y a pas de clause libératoire en France. C'est la première fois qu'un club ne cède pas aux caprices de Neymar. Évidemment qu'il est triste. Il va devoir reconquérir le public parisien. Il ne s'est pas encore gagné, mais avec son football qui joue très bien, je sais qu'il est capable de le faire. Il va faire 3 mois que Neymar ne joue pas au foot. Il a hâte de retrouver les terrains.
Isabella Pagliari au micro de Sophie Eschen. Alors le prochain rendez-vous pour Neymar, c'est avec la sélection brésilienne la semaine prochaine. Et avec le Paris Saint-Germain, ce serait normalement pour la 5e journée, le week-end du 10 septembre.
Bah, on verra quelle banderole l'attendront au Parc des Princes pour son retour. C'est aussi la suite de la 4e journée de Ligue 1. 4 matchs au programme aujourd'hui. Reims-Lille, Rennes-Nice, ça c'est à 15h. Strasbourg-Monaco, c'est à 17h. Et enfin Marseille-Saint-Etienne à 21h. Qu'en est-il des autres résultats d'hier, Marie ?
Alors hier soir, Nantes a battu Montpellier 1-0. Toulouse s'est imposé 2-0 face à Amiens, 3-0 pour Nîmes face à Brest. Et Angers s'est défait de Dijon 2-0.
Et puis petit changement pour l'équipe de France de football qui prépare deux matchs éliminatoires pour l'Euro 2020. Aymeric Laporte blessé a déclaré forfait, c'est le Barcelonais Samuel Umtiti qui va le remplacer. On rappelle que dans le cadre de ces matchs éliminatoires pour l'Euro 2020, les Bleus vont rencontrer l'Albanie et l'Andorre.
Et pour être complète, juste un petit mot de foot féminin, les dames ont gagné hier.
Et oui, c'est leur retour sur la pelouse.
À Clermont-Ferrand, victoire 2-0 contre l'Espagne avec des buts signés Eugénie Le Sommer et Delphine Cascarino.
Allez, on traverse l'Atlantique, rien que ça pour du tennis, c'est le tournoi de l'US Open de New York.
Oui, Gaël Monfils, le dernier représentant tricolore, s'est qualifié cette nuit pour les huitièmes de finale en battant le jeune Canadien Denis Shapovalov en 5-7. Gaël Monfils qui fête ses 33 ans aujourd'hui est satisfait de son match.
C'est une belle victoire, très content. Moi, je suis très content d'avoir su tenir mentalement avec des bas qui sont pas faciles à gérer. Le courage, je sais pas, mais juste d'avoir confiance en ce qu'on fait et d'avoir confiance en soi et forcément de la réussite, quoi. Moi, j'ai réussi à être costaud ce soir en espérant que je serai pour d'autres aventures.
Gaël Monfils au micro de Georges Homsy.
Et donc un beau cadeau d'anniversaire pour Gaël Monfils. En basket, c'est le début du mondial en Chine cet après-midi. La France affrontera l'Allemagne. Un mauvais souvenir pour les Français.
Oui, les Français s'est incliné en huitième de finale à l'Euro 2017 face à l'Allemagne. Donc aujourd'hui, c'est une autre compétition. C'est le premier match du mondial pour les Bleus. Et c'est maintenant qu'il faut rentrer dans la compétition, comme l'explique l'ancienne internationale Laurent Ciara.
C'est un premier match de compétition. Même si on a fait des super matchs amicaux, un premier match, il donne le ton de votre compète. Alors, je ne dis pas que si défaite, on se fait harakiri, on rentre à la maison. Pour le capital confiance, il faut marquer les esprits d'entrée. Quand commence la compétition, il n'y a plus d'excuses. Et être le doigt sur la couture et jouer comme on demande. Surtout sur le premier match, vous envoyez un message aussi aux autres nations. Parce que l'Allemagne, ok, on va dire, ouais, mais bon, ça ne fait pas partie des nations. Attention. Attention de bien commencer, parce qu'eux aussi, ils ont un beau petit roster. Hein. Comme beaucoup de nations, d'ailleurs.
Laurent Ciara, un ancien international français.
Merci beaucoup Marie Guida. Il nous reste à voir le temps que nous réserve ce dimanche et ça ne vous a pas échappé si vous êtes sorti ce matin. Vous nous le confirmez Valérie Darmon, les températures sont en chute.
Et oui Fabienne, d'abord c'est l'automne météorologique, donc elle retourne dans les moyennes de saison. C'était les 10 degrés d'hier au-dessus, hein, qui n'étaient pas tout à fait dans la norme. Il va donc faire cet après-midi 19 à Cherbourg, Dunkerque et Boulogne-sur-Mer, 21 à Caen et Aurillac, 22 à Amiens et à Belfort, 23 à Charleville, à Paris, à La Roche-sur-Yon, à Poitiers, à Bordeaux, à Nancy, 24 degrés à Nantes et à Clermont-Ferrand, 26 à Carcassonne, 27 à Lyon encore, 32 à Montpellier et 33 à Marseille. Côté ciel, l'anticyclone des Açores est un petit peu faiblard, il laisse donc passer des nuages partout. Et les orages dans un ciel bien bâché toute la journée se multiplient aussi des Pyrénées aux Alpes. Alors demain, retour du beau temps, tout de même, sur la majeure partie de la France. Dès le matin, le soleil va briller et persister jusqu'au soir. C'est juste près de la Manche que quelques passages nuageux inoffensifs vont alterner avec les périodes ensoleillées. Et puis le Mistral et la Tramontane qui vont souffler assez fort, jusqu'à 80 km/h en rafale dans le sud-est. Et puis prévoyez surtout un pull demain matin pour la rentrée, parce que les minimales seront plus fraîches qu'aujourd'hui.
Merci beaucoup Valérie Darmon. Vous parliez de la rentrée justement, on en reparle dans un instant. Parmi les mesures phares, il y a la réforme du bac avec beaucoup d'inquiétudes chez les profs et les lycéens. On en parle avec Philippe Vincent, secrétaire général du syndicat national des personnels de l'éducation nationale. Lui-même proviseur à Aix-en-Provence, il est mon invité.
Soyez les bienvenus sur Europe 1. Il est 12h50 et le journal de la mi-journée se poursuit avec votre invitée Fabienne Lemoelle.
Et on le disait, veillée d'armes dans les familles, si j'ose dire aujourd'hui, avant la rentrée des classes pour près de 12 millions d'élèves demain. Une rentrée aussi à haut risque pour le ministre Jean-Michel Blanquer. Avec entre autres l'entrée en vigueur de la fameuse réforme du bac, fini les filières L, S, ES, on parle désormais d'enseignement de spécialité. On se souvient de l'affront de certains profs en juin qui étaient allés jusqu'à la rétention des copies du bac pour contester la réforme. Bonjour Philippe Vincent.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général du SNPDEN, UNSA en clair, du principal syndicat qui représente les personnels de direction, entre autres principaux de collège, mais bien sûr les proviseurs de lycée qui sont justement en première ligne pour cette réforme. Alors avant de revenir sur ce qui va changer et vous interroger sur le climat en cette rentrée, déjà vous êtes dans quel état d'esprit à 24 heures d'accueillir vos premiers élèves, car vous êtes vous-même proviseur d'un lycée technologique à Aix-en-Provence. Tout est prêt ?
Eh bien, a priori, oui, tout est prêt. Donc, moi, je suis impatient de retrouver des élèves et puis curieux de les découvrir, puisqu'effectivement, j'entre dans un nouvel établissement pour ma 27e rentrée comme personnel de direction.
Alors, vous le disiez, c'est votre 27e rentrée. Et cette rentrée, je le disais, elle est bien particulière parce qu'il y a la mise en place de la réforme du bac et beaucoup d'interrogations chez les élèves, chez les profs comme proviseurs. Je le disais, vous êtes en première ligne avec le casse-tête des emplois du temps. Ça s'est passé comment? Parce qu'on va le rappeler, dorénavant, les élèves de première qui vont, entre guillemets, essuyer les plâtres ont dû choisir trois enseignements de spécialité. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont étonné dans le choix des élèves? Alors, il y a Édouard Philippe qui disait en fin de semaine que finalement, il y avait à peu près la moitié des élèves qui avaient choisi des combinaisons de matières qu'ils n'auraient sûrement pas faites si la réforme n'avait pas eu lieu. Ou est-ce qu'on a vraiment reproduit finalement les filières? C'est-à-dire que finalement, il n'y a plus de filière S, mais il y en a compris très simplement. Maths, physique et SVT.
Je dirais qu'effectivement, on constate deux pratiques. Il y a d'abord ce qui est, je dirais, des choix assez classiques, où les parents et les élèves ont peut-être joué la sécurité en reprenant ce qui pouvait ressembler aux anciennes filières, mais aussi parce que ça correspondait sans doute aux attentes du supérieur qu'ils envisagent dans 2 ou 3 ans. Et puis, on a vu effectivement aussi des choix beaucoup plus diversifiés, avec des élèves qui se sont sortis du carcan de ce qui était obligatoire lorsqu'ils prenaient une série et qui ont sans doute choisi des profils plus variés. Mais on peut aussi considérer qu'ils n'ont pas fait n'importe quoi et qui, même lorsque les combinaisons ont été plus diverses, en général, on a cherché à y trouver de la cohérence pour voir ce qu'il y avait derrière.
Alors, on entend effectivement beaucoup d'interrogations quand même en cette rentrée des classes, particulièrement, on le dit, avec cette réforme du bac. Je vais vous faire écouter justement cette professeure du lycée Fussel de Collange à Strasbourg que notre correspondant Arthur Mbaché a rencontré vendredi. C'était la rentrée des profs avec même une AG et on va écouter ses inquiétudes.
Moi, pour l'instant, je suis plutôt super inquiète et j'ai l'impression d'avoir un poids sur les épaules sur la quantité de travail qui nous attend. 3 nouveaux programmes, une réforme où on ne sait pas où on va, des élèves qui vont passer des épreuves de bac cette année en première, on ne sait pas comment ça va se passer, enfin, c'est très très inquiétant.
Et donc, cette journée de pré-rentrée, c'est terminée par une AG, de quoi il s'agit?
Pour poursuivre une action qu'on a lancée au mois de juin, qui est de refuser d'être prof principal. On est 35 sur les 70 collègues. C'est une mission qui nous tient à cœur, parce que ça fait une relation privilégiée avec les élèves, qui rapporte aussi un peu d'argent, des primes. On renonce à ça parce que c'est notre seul moyen là de manifester notre inquiétude par rapport à la réforme.
Voilà pour ce témoignage de cette professeure enseignante à Strasbourg. C'était vendredi. Ces inquiétudes, vous les comprenez, vous les entendez, vous les avez vues vous aussi vendredi dans votre établissement?
On les a sans doute moins vues que ce qui est exprimé là. Je rappelle quand même que même lorsqu'on a atteint des pics de mobilisation relativement importants au mois de juin, c'est resté quand même extrêmement minoritaire et que d'ailleurs, si ce n'avait pas été minoritaire, le bac n'aurait pas eu lieu. Donc on voit bien qu'une majorité quand même d'enseignants étaient présents et ont rempli leur mission. Non, je dirais que j'ai plutôt eu en face de moi des profs attentifs, c'est vrai, parce que le cadre change et qu'ils avaient des questions à poser, mais impliqués, visiblement. Ils cherchaient à s'emparer des nouvelles données et à voir comment ils allaient pouvoir les mettre en œuvre. Et puis responsables, parce qu'ils savent qu'ils ont devant eux des élèves qui effectivement vont passer des épreuves du baccalauréat dès le deuxième trimestre de la classe de première et qu'ils cherchaient à être dans les meilleures conditions parce qu'ils sont responsables et qu'ils savent que les élèves sont en phase 2 et qu'il va falloir les mettre dans les meilleures conditions pour réussir dans ce nouveau contexte. Donc je pense qu'on tente vraisemblablement d'une manière majoritaire de sortir de cette crise permanente pour passer maintenant à la mise en application.
Vous ne pensez pas que ça va repartir? C'est-à-dire que cette fronde tout à fait inédite, qui est allée jusqu'à la rétention de copies au mois de juin, au moment des épreuves du bac, vous n'imaginez pas que ce mouvement se poursuive?
Ça me paraît difficile, très honnêtement. Je pense que d'abord, on a atteint un pic avec des modes de contestation qu'on n'avait pas connus dans certains endroits. Je vois mal aujourd'hui, dans un contexte où la réforme s'applique, puisque voilà, même l'enseignante en question le disait, les programmes sont à mettre en place, les formes d'enseignement sont présentes, le rendez-vous des épreuves du bac arrivera assez rapidement. Donc je ne vois pas, non, très honnêtement, avec ce motif-là de contestation de la réforme du bac, la mobilisation reprend de manière relativement importante. On est maintenant vers autre chose.
Alors on l'a vu, Jean-Michel Blanquer, le ministre, joue l'apaisement. Il a même annoncé l'augmentation de 300 euros du salaire annuel des profs. Est-ce que ça va suffire pour calmer le jeu ?
Ça sera sans doute plus complexe parce que la question des salaires va se poser, vous l'avez dit, du fait de la réforme des retraites. Je crois que les organisations syndicales vont rencontrer M. Delvoye à brève échéance au ministère. Et puis, il y a aussi de gros volumes parce que il y a environ 1 200 000 personnels de l'éducation nationale, dont près de 900 000 enseignants. Donc, il y a forcément un effort budgétaire conséquent à réaliser. Donc, oui, sans doute que la question des salaires va être sur le devant de la scène, mais je pense aussi qu'au travers des comités de suivi de la réforme, il y aura peut-être des points précis qui nécessiteront ajustements ou amendements et qu'il faudra regarder d'un peu près. Toutes les mesures ne seront sans doute pas maintenues en l'état tel quel après un an ou deux de fonctionnement.
Une dernière question, Philippe Vincent. Qu'est-ce que vous pensez de l'expérimentation en région parisienne dans plusieurs lycées pour commencer les cours à 9h pour mieux respecter le rythme des lycéens ?
Je dirais « why not ?» On sait qu'un certain nombre d'élèves ont des temps de transport très importants, en particulier en région parisienne, mais pas que là d'ailleurs, ce qui les amène à se lever très tôt. Donc pourquoi ne pas tenter un autre rythme ? Si on perd une heure cinq fois par semaine de 8 à 9, ça veut dire pratiquement une demi-journée de classe à recaser ailleurs. Voilà, donc il faudra regarder comment... ça se met en place, donc sans doute que ce qui sera valable pour l'un en démarrant à 9h ne sera pas pour l'autre.
Un dernier mot, vous allez leur dire quoi justement à ces élèves qui arrivent dans votre établissement demain matin ?
J'ai une comparaison assez classique que mes anciens élèves connaissent bien. Je compare souvent l'année scolaire à un TGV. En leur disant que le TGV part 13 à l'heure et qu'il faut être 2 minutes sur le quai si on ne veut pas le louper et que si on a loupé le dernier wagon, on ne le reverra pas. Et qu'ensuite, une fois que ça a démarré, ça roule très très vite.
Merci beaucoup Philippe Vincent. Je rappelle, secrétaire général du SNPDEN UDSA, le principal syndicat qui représente les personnels de direction de l'éducation nationale. Merci d'avoir été avec nous ce midi et bonne rentrée.
Merci beaucoup, au revoir.
Et puis vous le savez, à 13h, on prolonge la tranche d'information avec le grand retour des carnets du monde avec vous, Sophie Larmoyer. Bonjour Sophie.
Mais oui, avec grand plaisir. Bonjour Fabienne. On entame ensemble la 14e saison des carnets, grâce aux reporters d'Europe 1 en correspondant. Et on va attaquer avec deux grosses actus de l'été, l'Amazonie qui brûle et la résistance des citoyens de Hong Kong face à Pékin. Ils ne baissent pas la garde.
À tout de suite Sophie.